Well, friends, this is another day.
Alors mes amis, c'est notre jour de la victoire glorieuse de Dieu et de son royaume. Et je le dis parce que une grande partie de ce que je vais dire est, une grande partie est basée sur les textes et les passages de la Bible que le marié m'a donné. Et lorsque vous écoutez ces textes et ces messages, vous allez comprendre simplement que ce sont des témoignages. Et ces témoignages qui viennent de Yang Ridion, le marié. Et ce marié est juste un témoignage naturel, une étape vers l'avant de sa marche avec le Seigneur. Et j'espère que c'est la même chose avec Louise. Ok, son nom ne sera plus Pretorius dès aujourd'hui, mais pour les Zoulous, ce nom va rester, on va toujours l'appeler Mama Potolosi. C'est le nom qu'on avait, c'est Louise Pretorius qui appelle, lorsqu'elle appelait. Donc maintenant, tout va se prendre fin aujourd'hui, Pretorius va prendre fin. C'est maintenant Louise Redelingus à partir d'aujourd'hui. Pourquoi je suis si heureux aujourd'hui dans ce mariage? Parce que c'est vraiment la proclamation de l'évangile de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque vous écouterez le message, vous allez comprendre que Christ est le centre et la force qui conduit tout ce mariage. Et c'est comme ça que cela doit être. Et si nous permettons à Dieu, il fera que cela soit ainsi, même si cela n'a pas été ainsi au départ. Dans le réveil, rien. Dans le réveil, tout ne tourne pas autour du couple, du marié ou celui qui sera le marié ou celui qui sera l'épouse, mais tout tourne autour de Christ.
James Hudson Taylor, the great grandfather of James Hudson Taylor, who was responsible for the salvation.
L'arrière-grand-père de John Hudson Taylor, qui était responsable du salut de beaucoup de Chinois. Il a vécu pendant le réveil, le temps de John Wesley et de Charles Wesley. Il était. Il était vraiment quelque chose de bien connu. Il avait son violon et il le jouait Et pendant qu'il jouait, vraiment pendant des fêtes, les gens se réjouissaient. Et le temps vint pour lui de se marier à Betty Johnson. Et leur jour de mariage, tout était prêt. Et celui qui devait sonner la cloche était prêt à sonner la cloche. Mais John Tyler n'était pas, on ne pouvait pas le voir sur la scène, mais la mariée était déjà prête à l'entrée. Pardon, Hudson Taylor n'était pas là. Mes amis, si nous permettons à Dieu d'être roi dans nos vies, il le fera et il prendra cette position de roi dans notre vie.
Was busy in his barn or in his shed preparing corn for his wife to be to bake bread for them.
Et James Tyler, ce qu'il faisait, pourquoi il n'était pas déjà arrivé? Parce qu'il était en train de préparer du blé avant de venir à l'église pour que sa femme, sa future femme, vienne faire le pain après.
But now there's a text. I don't know from one of the preachers in the revival that he heard, and it keeps coming up in his head.
Et il y avait aussi, pendant qu'il était occupé à le faire, il y avait un texte de un des prédicateurs du réveil qui était en train de repasser dans sa tête. Et c'était « Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. » Et d'une manière, ça revenait, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Jusqu'au point, il était complètement envahi par ça. Et dans sa maison, il s'est agenouillé devant le Seigneur et il a crié au Seigneur parce qu'à ce moment-là, Dieu l'avait convaincu aussi de ses péchés.
Oh, how blessed is it not to be convicted of your sins?
Oh, combien cela est une bénédiction que d'être convaincu de ses péchés.
It's a blessing of all blessings.
C'est la bénédiction de toutes qui est au-dessus de toutes les bénédictions.
And he fell down on his knees in the shed there where he was busy working.
Et il est tombé sur ses genoux là où il était en train de travailler. Et il a crié ses péchés à Dieu. Il ne pouvait plus porter. Il ne pouvait plus porter ses péchés plus longtemps. Souvenez-vous, c'était des heures avant son mariage. Et à ce moment-là, la paix de Dieu, le pardon des péchés venant de Dieu, et cette joie avait rempli, et la gloire de Dieu avait rempli sa vie. Et lorsqu'il a regardé, il a vu que le soleil était déjà, il brillait déjà, et c'était déjà l'heure du mariage. Et c'est comme ça qu'il s'est empressé pour aller au mariage. Et c'est comme ça qu'on a commencé le mariage. Lorsque nous lui donnons la possibilité d'être au centre de nos vies ou de notre vie, il le fera. So they got married. Et ils se sont mariés.
But now, there was a big surprise for Betty.
Mais maintenant, il y avait une grande surprise pour Betty.
Because Betty knew her husband to be as a guy that was full of fun. At the parties, drinking,
Betty connaissait son mari comme quelqu'un qui était là pour divertir les gens, qui aimait jouer la musique. Et cela n'a pas duré longtemps après. Elle s'est rendue compte que, mais c'est qui est cet homme avec qui je me suis marié?
That evening, James Taylor took his Bible and said, "Before we go to bed, let's read the Bible."
Ce soir-là, avant que James Taylor a pris la Bible, il a dit avant qu'on aille se coucher, lisons la Bible. Et Betty a dit, mais c'est ridicule, moi je vais continuer avec ce que je veux faire. Mais il a lu la Bible. Et il continue à lire la Bible chaque soir. Mais elle était aussi dure. Elle ne voulait pas vraiment. Elle ne voulait pas l'accepter. Et c'est comme ça qu'un soir, il a saisi sa femme, l'a pris entre ses bras, l'a soulevé jusqu'à la chambre et les deux se sont agenouillés. Et il a plaidé avec elle, a dit Betty, jusqu'à quand tu veux résister de ne pas donner à Dieu sa place dans ta vie, jusqu'à quand tu vas continuer ainsi? Ils sont allés dormir. Et cette nuit-là, cela arriva aussi à Betty. Ce moment particulier, c'est le moment particulier qui peut arriver dans la vie d'une personne. L'Esprit de Dieu l'a visité en cette nuit-là. Elle lui révéla ses péchés de la manière que Dieu percevait cela ou voyait ça. Et lorsqu'elle se leva, elle s'est agenouillée. Elle a demandé au Seigneur, elle dit, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi de mes péchés. » Dès ce jour-là, le couple était une force. Et partout où ils allaient, ils répandaient l'Évangile. Et pour certaines personnes, ça peut être une offense. Ça peut être une offense pour certaines personnes. Ils peuvent se dire, mais Dieu, où trouves-tu vraiment pourquoi viens-tu? Et tu t'introduis dans mon mariage et ma femme. Mais je vous dis, mes amis, le mariage, normalement, ça doit tourner autour de Dieu et Dieu seul. Et voilà les paroles merveilleuses que Betty a dit. Même quand James Taylor parlait d'avoir été convaincu de ses péchés. Son visage était rayonnant. On pouvait le voir lorsque il parlait de ça à tout moment. Il ne pouvait pas expliquer la joie et la paix qu'il avait reçue du pardon de ses péchés. Rien n'est comparable à la joie qu'on reçoit du pardon des péchés. Et c'est comme ça, le témoignage de Jan Gideon témoigne cela, comment Dieu est le centre de sa vie pendant que je vais raconter cela. Et le fait de le voir assis ici aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il a été obéissant au roi des rois de sa vie. Et Louise, je le crois que c'est la même chose dans sa vie. Voici ce que Jan Gideon a partagé avec moi, parce que je lui ai demandé que s'il avait un texte à partager avec moi pour aujourd'hui. Je vais arriver au texte, mais permettez-moi de dire encore ceci. Il m'a dit, « Oncle Albi, pendant des années, j'ai vécu une vie double personnalité. J'ai vécu une vie à l'église, devant les gens à l'église. Je vivais une autre vie lorsque j'étais avec mes amis. Et je vivais encore une autre vie pendant que j'étais avec mes parents. Trois vies différentes qu'il vivait. Il dit, mais lorsque j'étais seul, j'avais une autre vie, ma petite vie à moi seul. La vie peut être vraiment compliquée si on n'est pas honnête devant Dieu et devant les hommes. Parce que tu dois toujours veiller sur tes pas et de t'assurer que tu ne dois pas dire quelque chose qui... de ne pas dire quelque chose qui n'est pas en accord avec ce groupe-là et de dire quelque chose qui est bon avec ce groupe-là. Et lorsqu'on se retrouve seul, on peut se réjouir de mener aussi sa petite vie. Il s'est rendu compte que à un jour spécifique, il s'est dit que je ne profite pas du meilleur en vivant ces quatre vies, mais tout ce qui m'arrive, c'est le malheur, c'est le pire qui m'arrive en menant ces vies. Je ne suis pas un chrétien victorieux. Je suis connu devant mes parents le fils que je suis supposé être. Et quelque part avec mes amis, je ne me réjouis pas vraiment avec eux. Et lorsque je suis seul, voilà que je ne suis pas heureux. Voilà que je suis assis là avec le pire qui peut m'arriver avec les quatre vies. Et c'est comme ça qu'il a eu la lumière à briller en lui. Et il s'est dit qu'il devrait trouver une solution pour ça. Et alors il s'est agenouillé. Et il s'est dit qui il est qui, mais quand même à sa honte, il a, pour ainsi dire, défié Dieu. Il a dit, Seigneur, je te donne 6 semaines pour que tu me dises ce que je suis supposé être et là où je suis supposé, ce que je suis supposé faire. Et voyez ce Dieu plein de grâce. Voilà qu'il y avait là ce jeune homme difficile qui demande à Dieu que je t'accorde 6 semaines pour que tu me montres ce que je dois faire. Et voilà que nous servons un Dieu vraiment plein de grâce et plein d'humilité. Et Dieu n'a pas dit que « Qui penses-tu être pour me défier ?» Mais Dieu, dans sa grâce, est descendu jusqu'à son niveau. Et Dieu lui a dit « Yann Redion, cette chose, c'est à ce niveau-là que tu me perds et que tu perds la bénédiction. » Et vous savez ce que c'était son obstacle le plus grand qui l'amenait à perdre la joie. Il avait un péché secret, un péché domestique qu'il entretenait. Et ce n'était pas des grandes choses aux yeux de Dieu, mais c'était ses petits péchés qu'il entretenait. Et il cherchait pendant des années à s'en débarrasser, mais il n'en pouvait pas. Mais pendant des années, en secret, il les entretenait. Et quand il avait finalement traité avec ce problème, Dieu commença à lui parler et lui parler davantage pour lui montrer aussi la voie ou le chemin de la foi. Il m'a donné beaucoup de textes, mais je ne pense pas que nous allons tourner ou ouvrir dans ces passages, mais je vais les citer. Voici le texte principal dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4.
Ephesians, Galatians, Thessalonians, and then chapter 4.
Donc, on va passer Galates, Colossiens, Philippiens, Colossiens et 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Au verset 3.
For this is the will of God, your sanctification, that you should.
Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche.
And that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification.
C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
Not in passion and lust.
Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
Now the different translations
et dans d'autres traductions, là où il est question du corps, ils ont d'autres mots, ils ont un autre mot. Que chacun doit posséder son corps ou son vase pour la sanctification et pour et l'honnêteté. Le mot pour vase, c'est en grec qu'on dit kais. Skeos peut dire trois choses. Skeos peut dire un vase. Nous lisons que lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié, il y avait chaos, donc un vase de vinaigre qui était posé à côté de lui. Et ils ont pris une éponge qu'ils ont trempé cela dans le vinaigre et ont donné ça à Jésus pour boire. Donc Skaios peut signifier un vase ou une coupe. Et deuxièmement, Skaios peut aussi dire ton corps. C'est pourquoi plusieurs traductions, versions disent que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens 2, pardon, 5 au verset 7.
We have this precious treasure in earthen vessels, earthen scales.
Parce que Paul
so
dit que nous avons
and the surpassing of the greatness of the power will be from God and not from ourselves.
Il dit, Paul a dit que nous avons cette grâce dans ce vase de terrestre pour que chacun d'entre nous sache l'entretenir. Et encore, là, il utilise le mot chaos qui est notre vase terrestre qui peut être contaminé par pas mal de choses, même par des maladies ou affecté, qui peut être affecté par pas mal de problèmes ou de maladies.
But in the third place, the word skaios can mean the vessel can be a husband or a wife.
Et le troisième point que représente skaios, ça peut être un vase, donc ça peut être le mari ou l'épouse.
Interpreted, I believe, for this text.
Et c'est comme ça que on doit l'interpréter, je crois, en ce qui concerne ce texte.
Because he speaks of how each one of you should possess your vessel.
Parce que ça parle ici que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
another place in God's word where skeios means a wife or a husband.
Il y a un autre endroit dans la Bible où skeios veut dire mari ou femme.
1 Peter 3 verse 7.
Dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 7.
Likewise, husbands, live with your wives and in an understanding way.
Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rappelle-toi de ça, Yann Redion. Démontre, honore ta femme comme un sexe plus faible. Parce que ta femme va hériter le ciel avec toi. Elle n'est pas une esclave qui te sert. Après quoi, toi, tu vas aller au ciel et elle va aller ailleurs où, par exemple, les animaux vont. Et ensuite, la Bible dit quelque chose de merveilleux. Il dit, tu dois honorer ta femme comme un sexe plus faible afin que tes prières ne soient pas un obstacle. Pourquoi nos prières souvent ne sont pas exaucées ou entendues? En tant qu'homme, fais très attention comment tu traites ta femme ou comment tu te comportes devant ta femme. Peut-être c'est le pourquoi ta prière ou tes prières ne sont pas reçues ou entendues. Mes amis, c'est là l'image de Dieu de comment le mariage est supposé être. Il ne parle pas ici de l'amour, de la passion ou des désirs. Mais à cause de l'influence de Hollywood, tout est maintenant question de l'amour, de désir, des émotions. Et c'est ce qui amène les gens à décider quand ils doivent se marier, avec qui ils doivent se marier. Selon la parole de Dieu, tout tourne autour de Dieu, suivre la volonté de Dieu, le faire dans l'humilité. Dites-moi, mes amis, est-ce que notre image de mariage n'a pas été peut-être quelque part influencée par le monde à tel point que nous voyons le mariage ou nous gérons le mariage de la manière du monde au lieu que ce soit selon le Seigneur? Parce que beaucoup de personnes utilisent le mariage comme une chance. Oui, je vis dans l'immoralité, une vie souillée, où voilà, je couche avec ma femme ou ma future femme. Et je vis une vie immorale, une vie de débauche, une vie maudite. Mes amis, une vie immorale, une vie de débauche est une malédiction de Dieu, est une malédiction. Je vis cette vie et j'ai ces passions et ces désirs. Lorsque nous sommes ensemble, lorsqu'on s'embrasse, lorsqu'on se touche, nous développons de la passion, nous développons de la convoitise pendant le processus. Et on pense à la fin, alors marions-nous parce que c'est ce que tout le monde fait lorsqu'ils décident de vivre, lorsqu'ils vivent, lorsqu'ils décident finalement de vivre ensemble. Et ils pensent que Dieu va mettre de côté leur souillure, leur saleté, et Dieu va oublier cela. Et parce qu'ils se sont mariés, et Dieu va abandonner toutes ces choses. Non, tu n'as jamais confessé ton péché d'immoralité et ton péché, votre péché de se retrouver, de coucher ensemble. Vous n'avez jamais fait des restitutions et d'aller vers les gens en disant que voilà, je viens faire des restitutions, vous avez vu ma vie, j'ai toujours vécu avec une petite amie et je viens mettre cela en ordre avec vous. Et c'est comme ça que nous obtenons la bénédiction de Dieu en confessant nos péchés et en se repentant et en faisant des restitutions et en mettant les choses en ordre avec toute personne qui m'a vu observer menant cette vie d'immoralité. Mais non, je me dis que aussi longtemps que je me suis marié, tout de suite, l'immoralité a disparu, toute la souillure a disparu et subitement, la malédiction de Dieu sur ma vie a disparu et je pense que tout va bien. Et le mariage devient comme une chose chanceuse. Et que lorsque je me suis marié, ça m'apporte de la chance, de la bénédiction. Voilà, j'aurai des enfants, tout ira bien dans ma vie, tout marchera bien. Parce que j'utilise le mariage comme un charme qui va vraiment apporter, attirer le meilleur, la bénédiction dans ma vie. Et je pense que tout marchera bien pour moi. Et tous les chrétiens sont supposés m'accepter que tout va bien pour moi parce que je suis marié. Qu'est-ce que vous attendez de moi de plus? Mais tu ne t'es jamais repenti de ça, tu n'as jamais confessé ça comme un péché, tu n'as jamais demandé pardon. Mes chers amis, aux yeux de Dieu, le mariage doit être un acte de foi. Le mariage doit être quelque chose que je fais sous la conduite de Dieu et c'est Dieu qui doit me conduire à le faire. Est-ce que ce n'est pas ce qui arrive à Yann Ridion? Il avait sa vie jusqu'à ce qu'il a vraiment mis les choses en ordre avec Dieu. Il a dit qu'il n'a pas fait ça pour le mariage, il n'a pas fait ça pour obtenir quelque chose. Mais Dieu est venu à lui et Dieu, à un moment donné dans sa vie, Dieu est venu à lui et il lui a dit, Yann Ridion, il est temps pour toi de te marier. Mais très souvent, nous regardons au mariage de la manière que le monde voit cela. Et on se dit que Dieu est une gêne, est un obstacle, parce qu'il vient nous retirer, nous priver de toute la joie et tous les désirs, parce que nous devons nous abstenir de pas mal de choses que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas nous toucher, nous ne devons pas nous embrasser. Dieu dit que cela ne doit pas se faire selon la convoitise comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et les gens se marient mal en pensant qu'ils apporteront gloire à Dieu, mais ils ne s'imaginent pas qu'ils sont en train de faire du mal à l'image du mariage. Ils sont en train de vraiment, on peut dire, dégrader l'image du mariage selon Dieu. De nos jours, Hollywood a réussi à nous convaincre que l'amour est le point principal ou le point principal sur lequel nous devons nous appuyer pour se marier. Aussi longtemps que vous vous aimez et que c'est un amour véritable, alors vous êtes libre, mariez-vous. Aussi longtemps que vous avez ce sentiment de s'attacher, de vivre avec quelqu'un, d'en prendre soin. Et l'amour est devenu la chose aujourd'hui sur laquelle on s'appuie pour se marier. Le temps est en train de passer. Je vais commencer à lire encore plus et faire des remarques ça et là. Et en réaction par rapport au texte que j'ai lu, et c'est ce qu'a dit un commentateur de la Bible. Il a dit comment on doit se marier de cette manière et comment le mari doit aimer sa femme. Il dit que la femme doit contribuer à l'utilité de l'homme et non toujours voir et mentionner ses faiblesses. Rappelle-toi de ça, Louise. Tu dois participer à l'utilité de Yann dans le royaume de Dieu pour qu'il soit utile dans le royaume de Dieu. Doit participer. Le mariage doit normalement vous équiper, vous deux, pour servir dans le mieux Dieu que ce que toi tu peux faire quand tu es seul. Dieu doit demeurer le centre de votre mariage. Et ne permettez pas, parle que dans le mariage, il ne doit pas y avoir un appétit brutal. Et il fut un temps où il n'y avait même pas de rêve sur la pornographie. Même pas. Donc, Yann Ridion et Louise, faites attention. La pornographie a entraîné un appétit brutal dans le mariage. Et cela va arriver dans le moment le plus intime du mariage, que cet appétit brutal va bondir, va surgir. Et à la, au final, la, le mariage doit être un signe d'espérance. Permettez-moi de vous donner l'espérance. Dieu ne nous accorderait pas le mariage s'il n'avait pas prévu aussi de l'espérance, l'espoir pour nous. Je sais que le monde est plein de ténèbres et sombre, en particulier lorsque Eskom ne fait pas son travail comme il supposait le faire. Le monde devient vraiment ténébreux. Et il y a des crimes, des délits, il y a des trous sur la route. Et même j'ai entendu des gens qui disent ces jours que même quand on regarde un film, oh, il n'y a même plus d'espoir. Mais vous savez, Dieu ne nous conduira pas à se marier si il n'a pas prévu l'espoir pour nous et pour nos enfants. Dans Hébreux chapitre
3,
il a dit dans Hébreux que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera les personnes immorales. Mettez de côté les bouquins ou les livres romantiques loin de votre mariage et loin de vos yeux si vous voulez que votre mariage soit béni. Yann Ridion ne m'a pas vraiment dit exactement comment Dieu l'a conduit à se marier. Je ne pense pas que cela est vraiment important pour nous de le savoir ici. Il pourra le raconter une fois, une autre fois. Mais Dieu l'a conduit dans la foi. Et Dieu lui a dit, Yann Ridion, tu dois te marier par la foi. Et c'est comme ça que le Satan est arrivé pour l'amener à s'inquiéter. Ce n'est pas un signe que tu es hors de la volonté de Dieu. Si tu es vraiment dans la volonté de Dieu, le diable viendra pour t'attaquer, pour t'amener à t'inquiéter ou à te soucier. Alors que Dieu a conduit par la foi le peuple d'Israël hors d'Égypte, alors pendant qu'ils partaient, ils avaient peur, ils étaient inquiets que peut-être Pharaon et son équipe viendra nous attaquer. Et lorsque Néhémie et avec son groupe cherchaient à construire, rebâtir la muraille de Jérusalem, ils étaient inquiets parce qu'ils avaient peur que les ennemis viennent les attaquer. Et il a dit, lorsque ils étaient inquiets, Dieu lui parla. Dieu lui a parlé. Dans Psaume 46 au verset 10. Dans ma Bible, c'est au verset 11. Psaume 46 au verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Pour ces deux personnes qui se marient ici devant nous, c'est un acte de foi. Ne faites pas cela si votre relation avec Dieu n'est pas en ordre. Vous serez vraiment séduit par le diable. Bon, à cause du temps, je vais seulement lire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je n'ai pas planifié ce mariage. Je n'ai pas organisé ce mariage. Je l'ai fait parce que j'ai senti la conduite de Dieu dans tout cela. Il a dit, les grandes attaques du diable ont suivi parce qu'il voulait m'amener à m'inquiéter, à avoir peur. Et lorsque je criais à Dieu, oh, pour le mystère, lorsque nous rencontrons avec Dieu, le mystère qui nous est révélé, c'est de ne pas porter ça soi-même, mais c'est de remettre ça à Dieu. Et lorsque j'ai crié à Dieu, voici le verset qu'il m'a donné. Il m'a dit, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Il dit, lorsqu'il criait à Dieu, Dieu lui a donné ce verset. Arrêtez. Et il a pensé à Pierre qui est sorti de la barque et il marchait sur les eaux. Et à un autre moment, pendant que les disciples étaient dans la barque, il y avait la tempête et Dieu a calmé la tempête. Et Dieu lui a donné la paix. Et il a dit récemment, Dieu m'a donné une indication sûre qu'il avait vraiment, il a le contrôle de tout ce qui se déroulait dans ma vie.
God gave him the word from Isaiah chapter 5, 25 verse 1.
Et Dieu lui a donné la parole dans Ésaïe chapitre 25, au verset. Ésaïe chapitre 25, au verset 1.
For in perfect faithfulness you have done wonderful things. Things you planned for me long ago already.
Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis.
This is just the Afrikaans version of it.
Et ce qu'il vient de lire, c'est dans la version Afrikaans.
He says, then he could say together with Thomas, my Here, my Lord, you are my Lord and my God.
Il a dit, à ce moment-là, il a pu dire avec Thomas, comme Thomas avait dit, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et avec Pierre, il a pu dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, toi, Seigneur, c'est toi qui as planifié ce mariage déjà à l'avance. Et Dieu lui a dit, que c'est sa grâce. Dieu lui a dit que sa grâce l'a amené jusqu'à aujourd'hui. Et il a confiance que la grâce de Dieu les gardera les deux dans leur mariage. Et ensuite, il a posé cette question. Il dit, les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies. connaissons-nous Dieu comme, comme il est véritablement? Parce que ses voies sont très élevées que les nôtres. Vous pouvez dire, oui, mon frère, c'est un acte de foi. Tu es vraiment en train de prendre la chance. C'est facile de dire que, vous savez, c'est vraiment facile de dire que c'est un acte de foi, mais le temps nous le dira. C'est pourquoi se marier, ce n'est pas pour quelqu'un qui n'a jamais appris à entendre la voix de Dieu à chaque petite chose de sa vie, tous les jours. Parce que de nos jours, on trouve des gens qui n'entendent pas jamais la voix de Dieu. Mais lorsque ça concerne le mariage, ils vont dire, oh, voilà, j'ai entendu la voix de Dieu. Vous avez pris, vous avez agi par la foi, Louise et Yann Rédion. J'aimerais peut-être le dire de cette manière, vous êtes en train de le faire dans la foi, puisque le Seigneur vous bénir. Et aider l'un et l'autre à servir Dieu mieux que vous aurez pu le faire quand vous étiez seul. Et ne soyez pas un obstacle à l'un et l'autre. Et ne faites pas en sorte que ça soit difficile à servir Dieu pour l'un et l'autre que lorsque vous étiez seul. Et c'est à quoi Dieu a appelé le mariage chrétien à être. Nous allons passer maintenant à la prochaine étape. Ils peuvent s'avancer. Yann Rédion, est-ce que tu attestes devant nous tous? Est-ce que tu témoins devant tout le monde, devant Dieu et devant les hommes que Dieu t'a conduit à te marier avec Louise? Il a dit oui. Louise, à ton tour, est-ce que tu attestes témoigne devant nous tous que c'est Dieu qui t'a conduit à te marier avec Yann Rédion? Elle dit oui. Et c'est une réponse claire. Et tout le monde connaît maintenant que nous ne sommes pas ici pour organiser, arranger les mariages. Nous ne disons pas aux gens quand ils doivent se marier, comment ils doivent se marier et avec qui ils doivent se marier. Parce que si tu le dis à quelqu'un et que c'est la mauvaise personne avec qui ils vont se marier, ils devraient vivre cette vie-là pendant tout leur mariage, parce que c'est toi qui leur as donné le conseil. Nous allons maintenant, ils font maintenant l'échange des alliances. L'échange d'alliances. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Père céleste, voilà ici tes enfants qui ont, qui ont pris cette étape de se marier dans l'obéissance de ta conduite. Et que ta bénédiction, soit sur, sur ce mariage. Que ça ne soit pas une chose qui va les amener à une étape qui va les amener à ne plus entendre ta voix. Et lorsqu'ils vont commencer à vivre ensemble, qu'ils continuent à t'obéir et à faire ce que tu attends d'eux. Et Seigneur, nous te prions afin que beaucoup de fruits et de bénédictions découlent de ce mariage. Et qui sommes-nous, ô Seigneur, pour demander tes bénédictions? C'est simplement parce que tu es un Dieu de grâce. S'il te plaît, montre-leur cette grâce. Au nom de Christ, Jésus, notre Seigneur. Amen.